Gelmer Radio Spuntus.
Gelmer Radio.
Gelmer Radio.
Gelmer Radio.
Gelmer Radio.
Un quartier.
Une vue.
Du rythme et des infos.
De la bonne humeur.
Sur Brest et ailleurs.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Gelmer Radio, la radio associative et amateur du quartier du Gelmer. Nous enregistrons aujourd'hui à la Maison pour tous du Gelmer et nous sommes avec Elisa, Yamina, Stéphane, France, Denis, Anne et moi-même, Natacha. Aujourd'hui, nous avons également une invitée, Oran. Elle est maîtresse de maison aux Compagnons du Devoir, dont leurs locaux sont situés au bourg de Saint-Marc, et va nous expliquer en quoi consiste son métier. Bonjour Oran.
Bonjour Natacha.
Donc nous avons quelques questions à te poser. Donc Stéphane, je te laisse la parole.
Alors, bonsoir à tous. Je pose la question à Oran. Présentez vos missions en tant que maîtresse de maison au sein des compagnons.
Alors, j'ai, on va dire, trois missions principales. La première va être la fonction d'accompagnement des jeunes qui sont résidents au sein des maisons des compagnons du devoir. Donc, en Finistère, on en a trois. La principale qu'on appelle le siège, qui est donc à Brest, à Saint-Marc. On a une deuxième à Morlaix et une troisième à Quimper, donc qui sont des villes qu'on appelle les campagnes. Et donc ma mission principale est d'accompagner les jeunes dans la vie quotidienne, dans la prise d'autonomie et dans l'insertion socio-professionnelle. La deuxième mission va être en lien avec l'encadrement des salariés, puisque du coup j'ai une mission RH, on va dire, donc notamment pour les agents d'entretien. Et la troisième, c'est assez conséquente en termes de temps, c'est la gestion de l'hôtellerie et la comptabilité de la maison. Voilà.
Et comment êtes-vous devenue maîtresse de maison ? Faut-il faire une formation spécifique ?
Alors, les postes de maîtresse de maison, donc partout en France, dans les maisons de compagnons, sont des postes réservés à des diplômés de travailleurs sociaux. Donc, ça peut être des conseillères en éducation sociale et familiale, des éducateurs, éducatrices et des assistantes sociales, ce qui est mon cas. Donc, avant d'arriver en tant que maîtresse de maison, il y a bientôt 3 ans, j'étais assistante sociale dans diverses fonctions et missions.
Pourquoi ces noms de fonctions, est-ce historique ? Est-ce que historiquement, c'est toujours une femme sur ce poste ? Pensez-vous que c'est une tradition qui puisse évoluer ?
Alors effectivement, l'intitulé maîtresse de maison dans le travail social, d'ailleurs, pose souvent question. On me demande souvent si je suis toujours assistante sociale. Mais effectivement, c'est plutôt historique. Les maîtresses de maison existent depuis la création des maisons compagnons, donc en 1957. Et à l'origine, on appelait ça des dames économes. Après quelques années, les dames économes sont devenues des dames hôtesses, puisqu'elles avaient des fonctions principales plutôt de cuisine, d'accompagnement en soirée des travailleurs qui rentraient de leur lieu d'apprentissage et de gestion financière. Donc, ils payaient leur repas, ils payaient leur loyer à la dame hôtesse. Et ensuite, ça a évolué vers maîtresse de maison, donc pour être un peu plus clair sur les fonctions d'un point de vue RH, tout en gardant cet attachement historique à l'intitulé du poste. Et aujourd'hui, il n'y a pas que des femmes maîtresses de maison en France. Donc actuellement, il y a 69 maîtresses de maison en France et un homme, un maître de maison. Donc il y en a eu plusieurs à plusieurs postes. Donc il y a eu un petit peu de turnover d'ailleurs sur le poste que j'occupe actuellement. Avant moi, c'était un homme.
Alors moi, France, j'aurais d'autres questions à vous poser. Mm-hmm. Je vais être un peu plus incisive peut-être. pouvez-vous nous parler des certaines difficultés que vous rencontrez dans votre travail ?
Alors en termes de difficultés, personnellement, ça va plutôt se positionner sur des gestions qui vont être éloignées de mon métier d'origine. Donc en tant qu'assistante sociale, j'ai pas pour habitude ni pour fonction, mission de faire de la RH. Donc c'est des choses que je considère qu'on n'apprend pas sur le tas, pour lesquelles il faut être formé. Donc je me forme depuis l'arrivée à ce poste justement pour avoir une meilleure approche managériale, donc être la plus cohérente possible auprès des salariés. Et effectivement la comptabilité, mon Dieu, c'est un métier. Et c'est clairement pas le mien au départ. Puisque je m'occupe notamment de faire en sorte que les jeunes payent leur loyer, qu'on appelle nous une pension, puisqu'elle comprend le loyer donc du logement qu'ils occupent et les charges variables, donc leur repas par exemple. Tout ça, c'est des comptes d'apothicaire, hein, très clairement. Et c'est pareil, ça s'apprend pas vraiment sur le tas. Il faut être accompagné pour ça. Donc on va dire que les difficultés vont se présenter là-dedans en termes d'organisation. Et sinon, bah, quand on est confronté à des difficultés sociales de la part des jeunes qui rencontrent, qui traversent des moments difficiles dans la vie, là, il faut savoir effectivement faire le pas de côté nécessaire pour ne pas trop encaisser soi-même et être dispo pour les jeunes.
Et malgré tout, les soutenir sans, tout en gardant du temps pour vous et avoir le recul, en fait.
C'est ça, exactement. Donc là, normalement, ça fait partie du métier, mais on est toujours en remise en question. On vit au jour le jour avec les jeunes. Moi, j'y suis quasiment tous les jours avec eux. Et puis, je passe beaucoup de temps, on va dire, off. On considérerait comme off sur d'autres postes. Donc, je dîne avec eux le soir. Je suis là jusqu'à 21h, 22h, les week-ends aussi, certains week-ends. Et du coup, ça permet de créer des relations de confiance. Mais c'est difficile de garder parfois la bonne distance pour ne pas être trop proche d'eux. Et ne pas faire copain-copain. Il faut garder une relation quand même, moi, professionnelle. Mais quand on est... on a organisé il y a 3 semaines un concert de funk où on était 150. À ce moment-là, j'y étais, on va dire, plutôt bénévolement. Mais j'étais quand même en tant que maîtresse de maison. Ouais. Donc, je pouvais m'amuser avec eux, mais... Il fallait que je fasse attention à ne pas mettre la cabane sur le chien, quoi.
C'est vrai que l'on dit aussi que souvent les langues se délient pendant les repas.
Oui.
Hein, et on apprend plein de choses pendant des repas, des choses qui ne peuvent pas se dire sur un grand nombre, mais qui peuvent se dire par petit comité pendant un repas, justement.
C'est ça, toute la spécificité du poste, justement.
Je vous ai demandé de parler de vos difficultés, mais qu'est-ce que vous préférez dans votre travail ?
Oh bah, je pense que ça s'entend, la proximité avec les jeunes, justement. L'idée que je reste travailleur social, donc j'exerce mon métier, mais une image, un parallèle que j'aime bien, les assistantes sociales, habituellement, c'est comme les médecins. On va les voir que quand ça va pas. Et on ne voit plus, nous, les gens, après, quand ils vont bien. C'est là... toute la gratification, si on ne les voit pas, c'est que tout va bien. Alors que chez les jeunes, chez les compagnons, je les vois tous les jours. Et je les vois tout le temps, même quand ça va bien. Et c'est ce qui permet de créer une vraie relation de confiance pour les moments où ils vont moins bien, où ils vont venir vers moi beaucoup plus facilement. Et c'est vraiment cette proximité-là, c'est de la vie quotidienne. Ils me parlent de leurs petits bobos, de leurs grands amours, de leurs grandes déceptions, de leurs projets d'avenir, de leurs regrets. Ils me parlent de s'ils ont bien dormi, s'ils ont bien mangé. Enfin, voilà, on parle de tout. Mmh. Et ça, ça, c'est un vrai plaisir. On n'a pas l'impression de travailler dans ces moments-là.
D'accord. Et bon, c'est vrai que les compagnons du devoir, on pense que c'est quand même souvent un monde d'hommes. Y a-t-il des difficultés à travailler comme ça, entouré de plus d'hommes, si toutefois il y a plus d'hommes que de femmes dans les compagnons ?
C'est le cas, effectivement. On a une population majoritairement masculine, on ne va pas se le cacher, hein, mais c'est beaucoup lié aux métiers qui sont représentés dans nos résidences. Donc, ce sont principalement des métiers du BTP. On a aussi des métiers dits des matériaux souples, donc par exemple les cordonniers, les tapissiers, les maroquiniers. Et maroquinière. On a aussi des métiers de bouche, donc les boulangers, pâtissiers et pâtissières. Mais on a aussi des charpentières, on a des couvreuses, des menuisières, des ébénistes. Aujourd'hui, au sein de la maison de Brest, on a un petit peu moins d'un tiers des résidents qui sont des femmes. Donc, c'est vrai que majoritairement, je travaille entourée d'hommes. Aujourd'hui, dans l'équipe d'accompagnement, on est à 90% des femmes. Pour un homme. Donc, on inverse un petit peu la tendance. Mais moi, j'y trouve pas spécialement de difficultés. Je pense que c'est aussi lié au poste en lui-même de maîtresse de maison, qui est pensé pour être tenu par une femme dans un rôle un peu maternant. Et c'est comme ça que les jeunes l'entendent et l'attendent.
Ouais.
Et du coup, ils sont eux-mêmes adaptés à la relation avec la maîtresse de maison. C'est tout à fait spontané. Aujourd'hui, les évolutions, on va dire, proposées aux maîtresses de maison qui pourraient être reçue associativement par les compagnons du devoir, l'évolution du poste fait qu'on pourrait appeler cette personne une mère des compagnons, M-E-R-E. Mmh. Donc, il y a vraiment cette teinte maternelle dans la relation avec les jeunes. Donc, moi, j'y vois pas de difficultés liées au genre ou à l'expression du genre en tant que femme à travailler dans ce milieu majoritairement masculin.
Pouvez-vous nous parler un petit peu de l'historique justement des compagnons, quand est-ce que ça a été créé et depuis quand ça existe à Brest ?
Alors, pour Brest, j'ai pas de date vraiment précise. Je sais que la maison telle qu'elle est implantée aujourd'hui, on y est depuis 2018 et qu'elle existait depuis bien 20 ans avant ça à Brest. Elle était implantée à Recouvrance, donc juste à l'entrée après le pont, dans des locaux qui n'étaient plus aux normes hein, pour pouvoir nous accueillir. C'est pour ça qu'on a déménagé en 2018. Donc pour l'association des compagnons, donc qui s'appelle Association ouvrière des compagnons du devoir et du Tour de France, elle existe en tant que telle, en tant qu'association, donc loi 1901, depuis 1941. Et donc elle est reconnue une association d'utilité publique. C'est une association qui a vocation de former des jeunes. Donc on a des centres de formation. Elle est également classée au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Donc voilà, on est bien implanté en France depuis. On en trouve quand même des traces du compagnonnage depuis le Moyen-Âge. Mais c'était pas le compagnonnage tel que nous on l'entend aujourd'hui. Ça a beaucoup beaucoup évolué évidemment. Oui. Et les CFA, donc qui sont donc des centres de formation hein, pour les métiers que l'on enseigne. On a environ 35 métiers et à peu près 11 000 jeunes actuellement qui sont chez nous dans notre association en formation. Oui. Pour les jeunes qui ne sont pas, parce qu'on fait aussi de la formation continue, donc pour adultes dans des cadres de reconversion, mais eux ne partent pas, comme on dit, sur le Tour de France, ils ne deviennent pas compagnons. Mais nos CFA sont ouverts aussi aux personnes qui souhaitent se former à travers divers diplômes sans pour autant devenir compagnons du devoir. Donc on a beaucoup, beaucoup de passages sur les CFA, effectivement.
Voilà, donc à partir de quel âge peut-on rentrer dans les compagnons du devoir ?
Alors, la formation est accessible donc pour ceux qui souhaitent partir sur le Tour de France à partir de 15 ans révolus. Donc, il faut avoir fêté ses 15 ans. On ne peut pas rentrer en maison, en résidence des compagnons du devoir avant cet âge-là. Et on peut l'intégrer, donc pareil, sous ce même format, jusqu'à 25 ans.
D'accord.
Donc, c'est 15-25, on va dire, pour la fourchette, pour ceux qui souhaitent rentrer sur le Tour de France. Et sinon, on a effectivement, on dispense aussi de la formation continue, donc sans cette possibilité-là de devenir et d'avenir, mais avec quand même des formations qui sont dispensées donc par nos compagnons.
D'accord, très bien. Je vais laisser la parole, demoiselle.
C'est Yamina, donc je vais vous poser une question. Combien de jeunes sont résidents à Brest ?
Alors, dans la maison de Brest, on a une capacité d'accueil de 55 jeunes. Actuellement, ils sont 42, 43 à peu près. Nous, on parle... Alors, on a un peu notre propre lexique chez les compagnons. Donc, vous voyez, on dit maîtresse de maison à défaut d'autre chose. Et on parle de prévôté pour parler du département. Et donc, sur le département, on a trois maisons. Et donc, par exemple, c'est ce qu'on appelle une seule et même communauté. Donc, qui rayonne à trois implantations différentes. Donc, pour Brest, on a une capacité de 55. Pour Morlaix, on peut aller jusqu'à 18 jeunes. Et pour Quimper, 11. Voilà, donc ce sont des plus petites maisons. Donc, on a une capacité d'accueil d'environ 80 jeunes globalement sur le département.
Comment est-ce financé ?
Alors, le financement, à proprement parler, donc pour les jeunes qui rentrent sur le Tour de France, qui rentrent dans nos maisons, donc ce sont des jeunes qui sont en apprentissage, donc ça veut dire qu'ils ont un salaire. Tous les mois, ils travaillent, ils sont chez un employeur, et donc toutes les 6 semaines, ils ont 2 semaines en CFA. Donc nous, on parle un peu à l'envers d'ailleurs, on dit qu'ils vont en stage à ce moment-là, Alors qu'habituellement, quand vous allez en stage, vous allez en entreprise, là c'est l'inverse. Pour nous, ils sont en entreprise et ils vont en stage, donc en CFA, 2 semaines à peu près, toutes les 6 semaines. Et il n'empêche que tout au long de l'année, même quand ils sont en stage, ils perçoivent un salaire. Donc ils sont rémunérés à hauteur de leur travail en fonction de leurs âges aussi, parce que plus on est âgé, plus on est payé, normalement. En tout cas, chez nous, c'est comme ça que ça marche. Et ils bénéficient notamment pour le loyer, donc la pension dont je parlais tout à l'heure. Ils bénéficient des allocations logement pour la plupart. En tout cas, en Finistère, les logements qu'on leur attribue sont éligibles aux allocations logement. Ils peuvent également, quand ils sont majeurs, avoir la prime d'activité, donc qui est versée par la CAF, puisqu'ils travaillent, donc ils ont une activité. Ils sont également éligibles donc, aux aides au permis, par exemple, pour payer leur permis lorsqu'ils sont en formation dans nos CFA et qu'ils ont, pareil, 18 ans révolus. Sinon, il y a l'aide Mobilis Jeunes aussi, qui est une aide de 100 euros par mois, qui est donc versée par Action Logement pour les jeunes qui sont à plus de 87 km de leur domicile dans le cadre d'une formation professionnalisante. Donc, ils ont un cumul très confortable, en tout cas confortable, ça c'est sûr, qui leur permet de garantir le toit sur la tête, le repas, le véhicule, les assurances, toutes les factures de la vie quotidienne et de payer leur formation en même temps.
Merci, donc je vais passer la parole à Elsa.
I watched you smile at someone else tonight. And it cut me deeper.
Et du coup, est-ce qu'on peut voir le bâtiment?
Alors oui, vous pouvez le voir, les maisons sont ouvertes au public. On peut organiser notamment par exemple avec DMPT, on peut organiser à la demande des visites pour faire en sorte que nous tous soient disposés correctement pour pouvoir accueillir du public. Mais surtout, on a donc les journées portes ouvertes qui permettent là l'accueil tout public sur toute la journée et en général sur un week-end. Donc les prochaines sont le 21 mars et la maison de Brest sera ouverte au public et donc accessible aux visiteurs. Donc j'invite tous ceux qui le souhaitent à venir nous rencontrer et à venir rencontrer nos jeunes surtout. Donc pendant ces journées portes ouvertes, les jeunes font des stands. En fait, ils tiennent des stands où ils présentent leur métier et notamment les œuvres qu'ils réalisent tout au long de l'année. Donc vous pouvez visiter la maison, donc sur les parties communes, puisqu'on ne fait pas visiter les chambres des jeunes, évidemment, puisque c'est leur lieu de vie, leur lieu d'habitation. Donc ils payent un loyer, ils ont un contrat de résidence comme tout le monde, donc forcément on ne visite pas les parties privées, mais on permettra aussi la visite des ateliers, donc qui sont des locaux un peu plus bas de la maison, donc dans la rampe du vieux bourg, et donc ce sont des locaux qu'on a également en location où les jeunes travaillent, notamment on pourra voir les établis avec les charpentiers, les menuisiers et quelques couvreurs qui travaillent.
D'accord. Et que font les jeunes sur leur temps de repos?
Alors ça, c'est un peu ça, ils travaillent effectivement. Pour vous donner un exemple d'une semaine type d'un jeune qui serait en maison à Brest, donc sur la période où il n'est pas en stage, donc on va dire de 8h à 18h, il est en entreprise à peu près. Le temps de rentrer, de se doucher, ensuite l'heure de repas est fixe et obligatoire pour tout le monde parce que, comme le disait France tout à l'heure, le temps de repas est un temps très important qui permet effectivement des échanges et chez nous, c'est un temps qu'on leur demande de partager tous ensemble. Donc on a une heure de repas fixe de 19h à 20h. Pendant ce temps de repas-là, il n'y a pas d'écran, pas de téléphone. Donc, c'est discussion obligatoire. En tout cas, on essaye pour ceux qui sont pas trop fatigués. Et ensuite, de 20h à 22h, ils sont en cours tous les soirs de la semaine. 3 soirs par semaine, ils ont des cours d'enseignement généraux. Donc, ils font une sorte de positionnement au début à leur arrivée pour vérifier les niveaux. Et nous, on ne fait pas des cours en fonction des âges, mais des cours en fonction des niveaux de chacun. Donc, on va retrouver des jeunes de tous âges, parfois, qui vont se retrouver dans le même groupe. Et donc, ils ont des cours d'enseignement généraux, français, anglais, maths. Et le reste du temps, ils ont des cours d'enseignement de métier. Donc, ils vont être accompagnés par des plus anciens, qu'on appelle, nous, des sédentaires, et des formateurs, des référents métiers, qui vont venir leur enseigner l'art du dessin, l'art du trait, ou alors sur les établis, dans les ateliers, directement en pratique. Le samedi, ensuite, ils sont en cours, encore, toute la journée, de 8h à peu près à 18h. Donc avec le repas du midi, évidemment, la pause très attendue du casse-croûte également, qui leur permet voilà, de se reposer un petit peu et puis de relâcher la pression. Et ensuite, les animations du samedi soir, ça, ils s'en occupent très bien tout seuls. Et le dimanche, par contre, c'est le jour off. C'est le jour où il n'y a rien de prévu, mais on attend d'eux qu'ils participent à ce qu'on appelle la vie en communauté. Et donc, le dimanche, ils ne sont pas dans leur lit. Ils ne sont pas dans leur lit toute la journée. En général, il y a peu de grasse mat. Ou alors, ils ont prévenu à l'avance pour pas qu'on vienne les chercher. Mais on attend d'eux qu'ils fassent des activités, qu'ils s'intéressent à la culture, à l'endroit où ils se trouvent, puisqu'ils ne restent dans nos maisons que un an. Pour certains, moins. Pour certains, ils ne restent que 7 mois. En fonction de leur contrat et en fonction de leur métier, ils ont ce qu'on appelle des changements de ville, donc ce que nous, on pourrait appeler une rentrée scolaire en septembre. Eux, ils en ont 2 dans l'année. Une en avril et une en septembre. Donc, ils changent de ville, parfois 2 fois par an. Et donc, on leur demande d'être à 200% ici quand ils sont là. Et donc, de visiter le secteur, de découvrir un peu ce qui se fait au niveau culturel, au niveau artistique. Voilà. Pour ça, ils prennent des très bonnes habitudes. Ils sont déjà allés au Essan, passer un week-end. Enfin, voilà. Ils ne sont pas perdus. Mais les temps libres sont assez courts.
Et est-ce qu'ils aiment et profitent du quartier ?
Alors oui, ça, évidemment, ils sont très implantés dans le quartier. D'ailleurs, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. On organise, donc notamment en septembre, à leur arrivée, ce qu'on appelle la journée de la communauté. Et en fait, l'objectif, c'est qu'avec mon collègue, donc on appelle un prévôt, qui pourrait être vu comme un directeur de l'établissement, donc qui est mon binôme, notre mission, c'est d'organiser cette journée pour leur permettre de découvrir l'endroit où ils sont implantés, l'endroit où est la maison. Donc, découvrir le quartier, et pour ça, on organise un rallye. Donc, en gros, c'est une sorte de course d'orientation. Donc, ils courent pas, hein. On va pas les faire courir non plus. Mais c'est une sorte de course d'orientation avec des objectifs où on leur permet de rencontrer des personnalités du quartier. On leur fait faire quelques activités. Donc, il y a un atelier crêpes, par exemple, tout vêtement. Toute la journée, on les fait se balader un petit peu dans tout Brest, et notamment dans le quartier de Saint-Marc, évidemment, pour qu'ils se repèrent déjà un petit peu, parce qu'ils vont y habiter pendant quelques mois.
Est-ce qu'ils connaissent le Tour Brest ?
Eh bien, en général, c'est sur notre rallye. Voilà. Donc oui, on les y fait passer, on organise, on a donc ce que nous, on appelle les anciens, mais c'est plutôt un terme très flatteur chez nous, donc les anciens qui accompagnent les jeunes et qui, eux, habitent sur le quartier depuis 15, 20, 30 ans, voire plus, et qui aiment vraiment profondément cet endroit. Et donc, ils les attendent en général à des points de repère assez connus dans le secteur, donc notamment au Dorbras, pour faire des ateliers, une découverte de la faune et de la flore au moins 1 à 2 fois dans l'année.
Oui, ça va, le plus jeune.
Le plus jeune actuellement, chez nous, il doit avoir 16 ans à peu près. Le plus ancien, parce que du coup, ils peuvent rentrer chez nous jusqu'à 25 ans, mais après, quand ils ont plus de 25 ans, on ne les met pas à la porte. Donc, ils continuent leur parcours. Le plus ancien que moi, j'ai vu dans une de nos maisons, venait de fêter ses 30 ans. Et donc, la cohabitation demande des ajustements, tant dans les rythmes de vie, que dans les expériences, que dans la maturité et les activités qu'on va aller chercher justement sur les temps de repos. On ne va pas avoir les mêmes loisirs à 15 ou 16 ans qu'à 29 ou à 30 ans. Donc, ça fait des gros écarts, sachant qu'ils habitent tous ensemble, ils partagent des chambres. Il n'y en a quasiment aucun qui a une chambre seule. Hein. La maison est grande à Saint-Marc, on a 3000 m2, et pour autant, les dispositions ne permettent pas d'avoir des chambres individuelles. Donc, ils sont chez nous 2 par chambre, et ils s'en sentent plutôt heureux, parce qu'il y a des maisons où ils sont 8, c'est des dortoirs. Donc, il y a des maisons un peu moins intimes, on va dire. Mais du coup, des fois, on a des cohabitations un peu atypiques entre un jeune de 16 ans et un jeune de 26, 27, 28 ans. Ça peut arriver. Et au contraire, nous, on recherche ça.
C'est-à-dire ça se passe bien en général ?
Ça se passe bien parce que le mode de fonctionnement chez nous, c'est dans la transmission, dans la fraternité, dans la solidarité. Et donc, les plus anciens, les plus âgés ont vocation à, quoi qu'il arrive, accompagner et faire preuve de compréhension auprès des plus jeunes. Mmh. Parce qu'eux aussi sont passés par là avant. Quand ils rentrent sur le Tour de France, en moyenne, le Tour de France peut aller jusqu'à 10 ans. Donc, quand on y rentre à 15, on en sort à 25. Ça veut dire qu'on va aussi accompagner à 23, 24, 25 des jeunes de 15, 16 ans. Et donc, il faut faire preuve de l'empathie dont on aurait souhaité bénéficier quand on est arrivé. Et cette mentalité-là, elle se retrouve énormément chez nous. Et donc, les cohabitations, des fois, on a les parents qui sont un petit peu frileux en disant « Ouh là là, je vais mettre ma fille ou mon fils avec quelqu'un qui a 10 ans de plus dans une chambre. » Et quand on leur explique qu'effectivement, c'est là tout l'intérêt. On ne met pas des mineurs ensemble, déjà pour avoir toujours un responsable qui garde un œil sur les plus jeunes. Mais surtout pour la transmission. Pour la transmission, la bienveillance, et puis pour faire en sorte que le jeune, il ait toujours un référent de confiance. Voilà.
C'est un peu comme à l'armée, c'est le savoir-vivre ensemble.
Exactement. Voilà. On y retrouve des...
En pension aussi, moi j'ai fait la pension, j'ai appris ça aussi. Tout à fait.
Mais oui, on retrouve des parallèles entre l'armée et chez nous. Et des fois, ça nous fait sourire. Les jeunes disent « Vous êtes trop sévère, je vais aller dans l'armée. » Ils savent pas tout perdre.
Question sur tu parles de Tour de France et de Tour du Monde. Tour de France, dans quelle ville ils peuvent aller en dehors de Brest, Morlaix et Quimper du coup?
Alors, je vais faire attention à pas dire de bêtises. Sur le nombre de maisons qu'on a actuellement, on doit pas être loin de la centaine de maisons. J'ai un peu peur de me prononcer sur le nombre de maisons. Je ne saurais pas être très précise. Sachant que ne sont référencées que les plus grandes, celles qu'on appelle les sièges. Donc, par exemple, pour le Finistère, en général, quand vous allez sur le site internet, donc vous trouverez toutes les informations sur le site internet. On peut même avoir des visites virtuelles de certaines maisons qui sont connues comme étant des très très belles maisons qui ont été, pour certaines, construites par des compagnons. Donc, bon, c'est pas le cas à Saint-Marc, hein. C'est un ancien EHPAD, enfin une ancienne résidence senior. Et il y a des très belles maisons, donc pour lesquelles on peut avoir des visites virtuelles. Donc, il y a, je pense, entre 70 et 100 maisons sur le Tour de France qui sont réparties un peu partout à travers la France. Donc, on a dans toutes les grandes villes de France, avec donc certaines des campagnes du coup qui seront pas forcément référencées sur les cartes, mais que on découvre en prenant contact avec les maisons pour pouvoir les visiter, et qui en général localement dans les implantations sont très connues. Par exemple, celle de Morlaix à Plougeon, elle est très connue par les habitants. Et on a des maisons effectivement à l'étranger, dans beaucoup de pays, puisque dans le cadre de leur Tour de France, les jeunes ont l'opportunité, et on leur demande s'ils le peuvent en termes d'organisation, de faire une année à l'étranger. Et donc qu'ils bénéficient de la même prise en charge et du même accompagnement dans les maisons à l'étranger que dans les maisons du Tour de France.
Ah oui, je voulais vous demander, vous avez parlé, donc ils étaient en alternance stage en entreprise et à l'école. Mm-hmm. Ces fameux stages-là, est-ce aux jeunes de les trouver ou vous êtes partie prenante pour les aider à choisir?
Alors, les jeunes qui rentrent chez nous pour la première année, dans le meilleur des cas, doivent trouver l'entreprise dans laquelle ils vont travailler. Nous, on inverse. Quand on parle de stage, c'est quand ils sont en formation en CFA. Mais oui, du coup, on leur demande quand ils arrivent chez nous d'avoir démarché les entreprises. Déjà pour qu'ils se mettent dans une démarche justement proactive autour de leur emploi. Parce qu'après, chez les compagnons, ils ne pourront pas forcément se laisser porter. Donc, il faut qu'ils soient déjà dans cette prise de position. Après, quand ils sont sur le Tour de France et qu'ils changent de maison en maison, ils arrivent dans une maison, c'est un peu tout frais payé. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, vous allez aller dans telle entreprise, vous allez aller dans telle maison. Et puis, ils n'ont plus qu'à, entre guillemets, poser leur bagage. Donc une fois qu'ils sont lancés sur le Tour de France, ce n'est plus à eux de trouver l'entreprise. Et c'est là qu'est le rôle justement du prévôt, le binôme dont je parlais tout à l'heure, qui lui est un compagnon du devoir, qui a fini son Tour de France et qui accepte de prendre la tête pendant 3 ans en binôme avec la maîtresse de maison d'une maison. Et donc c'est ce qu'on appelle une gâche. Donc ça veut dire que c'est quelque chose, c'est une mission qu'il a choisi lui-même de prendre. Et donc pendant ces 3 ans, lui, ses missions, ça va être justement le placement des jeunes, le recrutement des jeunes pour qu'ils rentrent chez nous, notamment à travers les journées portes ouvertes, à travers les visites de collège, les forums, par exemple Azimut à Brest. Et on représente donc sur des stands les Compagnons du Devoir. Et donc c'est les prévôts qui sont en charge du recrutement des jeunes pour qu'ils rentrent l'année suivante chez nous. Et une fois qu'ils sont chez nous, les prévôts sont en charge ensuite de leur placement, de l'accompagnement aussi compagnonique, donc de la vie de la maison, en charge de l'animation de la vie de la maison. Et également, lui, il a la troisième casquette du patrimoine, la gestion du patrimoine. Donc c'est lui qui a la casquette de directeur quand il y a quelque chose qui déconne à la maison.
Et du coup, au total, s'il change, vous dites, tous les 6 mois,
ça peut.
À peu près, ça leur fait visiter combien de villes pendant leur formation ?
Et ça va dépendre. En fait, en fonction des métiers, ils ne vont pas avoir la même durée de Tour de France. Ouais. Donc, c'est difficile de vous faire une moyenne. Par exemple, les pâtissiers, boulangers, les métiers du goût, donc, et les pâtissières et boulangères, quand elles viennent et ils viennent dans une ville, ils restent un an. Donc, eux, ils ont un changement de ville par an. Les charpentiers, au début de leur Tour de France, eux, ils vont venir de septembre à mars. Et ensuite, ils rechangent de avril à août. Et ils rechangent ensuite de septembre à mars. Et quand ils sont reçus Compagnons du Devoir, après, ils font un an par ville. Donc, c'est un peu le bazar, quoi. Faut s'y retrouver.
Ouais, ouais.
Donc, l'idée, c'est que quand il y a volonté de s'inscrire chez les Compagnons, on vient pas en disant « je veux venir chez les Compagnons, mais je sais pas quoi faire ». On dit « je suis intéressée par un métier ou par une matière ». Par exemple, il y en a qui arrivent chez nous en disant « moi, je veux travailler le bois ». Je sais pas comment, mais je veux travailler le bois. Et du coup, justement, en rencontrant les jeunes et en rencontrant les prévôts, on les aide à s'orienter. Quand on nous dit, on a aujourd'hui des serruriers métalliers, des chaudronniers à Brest, quand on a des jeunes qui arrivent en disant « moi, c'est les métaux, moi, c'est le fer, moi, je veux taper de la forge », et ben on les oriente vers les métiers. Et à partir du moment où ils sont intéressés par un métier, dans ce cas-là, on leur explique aussi, s'ils rentrent sur le Tour de France, à quoi ils peuvent s'engager. Mais rentrer en maison, venir se former chez nous et rentrer habiter dans les maisons, même pendant un an, n'oblige pas à partir sur le Tour de France. On peut venir se former pour un an, vivre en résidence malgré tout. Ça veut juste dire qu'on ne deviendra pas Compagnon du Devoir.
Et est-ce qu'il y a des abandons dans ces études ?
Oui, on ne va pas se le cacher. Évidemment, il y en a parce que le format ne convient pas à tout le monde. Parce que comme tout à chacun, des fois, on ne fait pas les bons choix. Quand on est jeune, on a 15, 20 ans, on peut changer d'avis sur les études qu'on veut faire. On a de plus en plus de jeunes qui rentrent plus âgés chez nous parce qu'ils ont déjà eu un parcours universitaire pour certains. Et que du coup, parfois, quand on leur dit au début, il va falloir vous engager pour plusieurs années, au début, c'est oui, c'est sûr, j'y arriverai. Et après, la vie évolue, on fait des rencontres, on a envie de se poser en couple, on a envie d'avoir une famille, ou on rencontre une entreprise dans laquelle on est tellement bien qu'on n'a pas envie de partir. Et donc, ça, c'est ce qui peut écarter du chemin du Tour de France. Et puis, il y a les jeunes qui sont arrivés parfois trop jeunes chez nous, qui sont finalement pas prêts. La distance avec les parents, parce que en fait, quand on rentre chez nous, il n'y a plus de vacances scolaires. Ils ont des vacances de salariés. Et à 15 ou 16 ans, quand on dit, maintenant, il va falloir organiser vos congés payés avec la CIBTP pour pouvoir anticiper, cumuler pour l'année prochaine. Enfin, c'est un autre monde. Et on n'est pas toujours prêt à ces détails-là qui finalement n'en sont pas quand on doit le vivre très jeune. Donc oui, c'est sûr. On ne considère pas forcément que ce sont des échecs, ce sont juste des changements d'orientation. Voilà, c'est un échec si on oblige un jeune à aller malgré lui. Là, on considère ça comme un échec, si on le pousse malgré lui. Mais s'il arrive à s'écouter, dans ce cas-là, lui, il a réussi.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Merci beaucoup, Oran, d'être venu à notre rencontre aujourd'hui et de nous avoir fait découvrir votre métier atypique.
Merci à vous.
Je pense que beaucoup de nos auditeurs vont découvrir également les Compagnons grâce à cette émission. On va maintenant faire une courte pause musicale avant de passer la parole à France, qui va nous présenter sa chronique du jour sur le mystérieux Dourbraz. Oran, peux-tu nous dire ce que tu as choisi comme musique ?
Donc pour la musique, j'ai choisi Laïka de Kamel Power sur l'album Kamel Power Club de Spoutnik 2.
The sun is turning red, a good job you've done, but in all you got, wonderful trophy.
lying in your bedroom. You're so brave and strong, walking through the jungle, a rifle in your hand. You're the sniper of the earth, amazing. Put a zebra in your bag. We're gonna shoot you down. If you feel like going hunting, we're gonna shoot you down.
Toujours sur Gamer Radio et je passe le micro à France.
Voilà, aujourd'hui je vais continuer ma chronique sur le quartier et je vais vous parler du Dourbraz. Est-ce que vous savez tous ici autour de nous où se trouve le Dourbraz ?
Non, je ne sais pas.
Vous ne savez pas où se trouve le Dourbraz. Vous n'avez jamais été dans au Dourbraz. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est une grosse erreur. Il démarre de la rue Brigadier Le Canne et il arrive de l'autre côté, rue Jacques Cartier. Il y a un lavoir, vous avez peut-être entendu parler, et il longe la voie de chemin de fer. Alors, puisque vous ne connaissez pas le Dourbraz, sans doute que vous ne connaissez pas non plus le nom qu'on lui donnait avant. Tu sais, Anne ?
Oui, moi je sais.
Elle a triché.
T'as triché. Alors,
c'est le Petit Bois.
Le Petit Bois. Alors, quand j'étais enfant avec ma grand-mère, on allait dans ce Petit Bois pour aller ramasser des châtaignes, on allait chercher des têtards, on faisait des cabanes. Et ben, j'ai retransmis la même chose avec mes enfants. Et on allait le mercredi après-midi dans ce Petit Bois tranquillement pour passer un après-midi et puis prendre les goûters. Il y a un endroit particulier où il y a des pierres qui forment comme une petite banquette. Et il y avait un hou qui venait par-dessus. Et du coup, mes enfants et, les amis, et leurs amis avaient fait une petite cabane. Ils avaient apporté, ils allaient chercher des branches, etc. Ils mettaient des fougères sur les petits bancs et je servais le goûter dans cette petite cabane-là. autre question. Je crois que c'est Anne, tu m'as fait voir la différence. Tu avais demandé la différence entre le bois, le jardin et le vallon. Alors, autour de Saint-Marc et Le Guelmeur, il y a beaucoup de vallons, en fait, mais qui sont un petit peu engloutis. La rue Pierre-Sémard, c'est un vallon. Il y avait le ruisseau qui coulait depuis la place de Strasbourg et qui arrivait au port en bas. Donc, il y a aussi le vallon donc, du Douroise. Ensuite, il y a le vallon qui partait et qui longeait la rampe du Vieux-Bourg et le vallon du Stangalard. Tout ça, ce sont des petites rivières qui partent en fait de la place de Strasbourg et qui ont creusé un petit peu la terre. Et l'eau arrivait justement dans notre fameuse grève de Saint-Marc. Alors, il y a une rivière qui est canalisée aujourd'hui et elle se terminait par une chute d'eau de 4 à 5 mètres de hauteur au niveau de la grève du vieux Saint-Marc. Cette cascade était appelée la douche de Saint-Marc. Cette douche, paraît-il, avait des vertus médicales et certains dermatologues conseillaient à leurs malades de venir s'y rincer. Il y a aussi des petites terrasses. Alors, vous irez voir maintenant, hein, parce que là, je vous donne les renseignements, mais la prochaine fois qu'on se voit, vous me direz si vous avez retrouvé tout ce que je vous indique. D'accord ? Alors, sur la gauche, quand on descend, il y a des soubassements en pierre de schiste. Et elles ont été rénovées pour faire des terrasses de façon à ce que les élèves des écoles primaires du quartier puissent aller y faire des plantations. Ça a duré 2-3 années, mais hélas, voilà, ça n'a pas continué. Ça aurait été bien pour toi, Stéphane, hein, des petites terrasses là dans ce vallon. Vous aviez l'eau pas très loin, ça aurait été pas mal. Et en face, donc de l'autre côté de la rivière. Elles sont aussi en terrasse avec des marches en bois, des escaliers. Et à ce niveau-là, c'était un manoir qu'il y avait là. C'était le manoir qui a été construit en 1912 pour le vicomte d'Enfermé, quand même. Hein, il y avait un manoir là. Et il a été détruit en 1970 à cause de la mérule. Ils n'ont pas pu le garder à cause de la mérule. Cette rivière a aussi formé des étangs, des mares, qu'on peut voir en face de la maison qui est toujours actuellement dans le petit bois. Au départ, c'était des cressonnières. Donc, il y avait Mimi Cresson, on l'appelait comme ça, qui venait avec sa brouette. Elle faisait ses bottes de cresson et elle venait les vendre dans le quartier avec sa charrette. Il y a aussi eu des plantations d'arômes dans ces mares-là. Le vallon, maintenant, il est actuellement fermé. En fait, il est ouvert, bien sûr, hein, et il a été fermé pour pouvoir faire arriver le train jusqu'à Brest. Est-ce que vous pouvez imaginer en quelle année le train est arrivé à Brest ?
J'aurais dit 2000.
En 2000. Eh bien, et toi ?
1950 et quelques.
Eh bien, c'était 100 ans plus tôt, en 1845. Le premier train est arrivé à Brest le 29 avril 1865. Ça fait loin quand même pour vous, hein ? Pour moi aussi d'ailleurs, même si je suis un peu plus âgée que vous.
Donc il y a un train qui allait à Lambézec.
Ah oui, il y a le petit train qui allait sur Lambé, sur Saint-Pierre aussi. Ouais. Il y avait les petites gares sur Lambé et sur Lambézec.
Le train en patate.
Les trains patates, voilà. Et alors, il y a aussi une petite spécificité dans ce petit bois. À côté de la maison actuelle, il y a une petite cabane en pierre. On ne la voit plus très bien, elle est vraiment mangée par le lierre. Et en fait, cette petite cabane-là, il y avait une pompe dedans. Et les locomotives à vapeur, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. C'était des locomotives à vapeur. Donc la locomotive venait au niveau du vallon, là, et pompait l'eau pour mettre dans les chaudières, pour venir remplir les locomotives.
Moi, j'ai une question. C'est quoi la mérule ?
La mérule, alors ça c'est une technique, je ne sais pas si je vais réussir à l'expliquer. Ce sont des petits vers, je pense, qui détruisent les charpentes. Ça rentre dans le bois, tu vois, ça fait plein de petits trous dans le bois. Donc après le bois, il devient un peu comme, tu vois, une éponge, les trous dans une petite éponge. Et le bois n'est plus assez solide
Et ça coûte, ça revient très très cher de traiter ce bois-là si c'est vraiment bien atteint. Ça coûte trop cher de faire réparer.
Merci France. Si vous souhaitez vous y rendre pour découvrir ce petit bois, il suffit d'aller au bout de la rue Jacques-Cartier, donc, où vous trouverez une entrée.
Jacques-Cartier ou Brigadier Le Canne.
Et pour terminer cette émission du jour, je vais passer la parole à Elisa qui va un peu nous raconter ce qu'on a fait pendant les dernières vacances de février.
Oui, du coup, en février, pendant 3 matinées, on était 5 enfants. On a fait un petit journal télé qu'on a aussi présenté, et aussi sous forme de podcast. C'est pas trop à croire ce qu'on dit parce que c'est pas très vrai.
Est-ce que tu peux nous dire le nom du journal ?
C'est Radio Mytho.
Donc ça vous donne une idée de ce que vous allez entendre.
Bonjour et bienvenue sur Radio Mytho, c'est Mila Lucet qui vous parle. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 49 novembre, -18. À nos côtés, Madame Carmen qui fera Miss Météo, Monsieur Carat qui sera notre invité aujourd'hui, Monsieur Dupont et Monsieur Fourfou qui seront les journalistes. À présent, nous nous retrouvons avec Monsieur Dupont et Monsieur Carat, notre millionnaire radin, en salle d'interview. Je passe tout de suite la parole à Monsieur Dupont.
Bonjour, Monsieur Kerra.
Bonjour à vous, mais c'est Monsieur Kerrat.
Ce n'est pas Kerra.
Kerrat.
Kerra.
Kerrat.
Bon, commence. Comment êtes-vous devenu millionnaire ?
J'ai épousé une femme, la femme de ma vie, vers mes 24 ans, quand elle en avait 94. Elle était multimilliardaire, mais quand elle a commencé à tousser, j'ai dit alléluia.
Ah ! Il y a une odeur. Vous vous douchez parfois ?
Oui, tous les dimanches, je prends 5 minutes pour ne pas gaspiller de l'eau. C'est bon pour la planète, et ça coûte moins cher.
Pensez-vous être radin ?
Non, je ne suis pas radin, je suis opportuniste. Par exemple, quand il y a des présentations de fromage dans tout ce qui est magasin, au lieu de prendre les petits carrés, je prends le gros morceau de fromage qu'il y a à côté.
Où vivez-vous ?
J'habite dans un appartement de 30 mètres carrés avec 3 colocataires.
Comment dépensez-vous votre argent ?
Je ne dépense pas du tout. Franchement, je vis au dos des gens.
Mais vous êtes radin ?
Non, je ne suis pas radin, je suis opportuniste.
Merci Monsieur Kerrat pour votre interview. Nous venons de rencontrer le plus gros rat de France.
Je suis pas un rat.
Attention, il vient de partir avec le micro.
Radio Mytho,
Radio Mytho,
Radio Mytho,
Radio Mytho,
Radio Mytho, la radio qui a toujours faux.
Merci Alexandre pour cette interview. Nous allons maintenant présenter les actualités avec Monsieur Fourfou.
Une personne aveugle a sauté par accident en parachute dans le cratère d'un volcan en éruption à l'île de La Réunion. Dans l'Aveyron, une personne âgée de 300 ans s'est suicidée pensant qu'elle était trop vieille. Le président Donald Duck a envoyé une bombe atomique sur lui-même à la maison de retraite. Quelqu'un a sauté du pont le Golden Gate pour faire un méga plongeon. Le chanteur XXPop a fait une incroyable chanson. Tout le monde l'a détesté. Des scientifiques ont découvert une planète recouverte de robots et ils les ont contactés et les robots ont annoncé vouloir nous détruire à la suite de la sortie de la chanson de XXPop.
Merci Monsieur Fourfou pour toutes ces actus si intéressantes. Nous allons maintenant savoir la météo pour la semaine avec Carmen.
Bonjour, aujourd'hui sur la météo, je vais vous présenter à peu près le temps qu'il fera cette semaine. Alors pour lundi, on sera sur un temps très clément, moins 500 degrés, mais bien sûr, il ne neigera pas. En effet, nous sommes à Brest. Pour mardi, on aura une énorme canicule, 10 degrés, il faudra sortir le maillot de bain. Mercredi, un temps normal avec du vent à 180 km/h, 3 litres d'eau par seconde. Jeudi, on aura un temps pas foufou, moins 1000 degrés avec de la pluie comme toujours. Alors pour vendredi, on aura du beau temps, 5 degrés, toujours 3 litres d'eau par seconde, mais pas de vent cette fois-ci. Samedi, on aura sûrement un petit aperçu de l'été avec 20 degrés et du soleil. Faites bien attention au coup de soleil. Enfin, dimanche, je sais pas encore ce qu'on va mettre. Du coup, on va mettre qu'il pleut, comme ça on a plus de chances que ça marche qu'autre chose.
Radio Mytho, la radio qui a toujours faux.
Pour conclure ce journal, nous allons vous présenter un reportage effectué dans la forêt brestoise aux alentours du bois de Kerwal. La nuit dernière, un animal inconnu a été aperçu volant au-dessus du bois.
Suite à cela, la police locale a reçu un appel d'un certain docteur Maboul, un savant fou bien connu dans la région qui a déclaré avoir perdu son échec expérimental. Notre journaliste Monsieur Fourfou est parti interviewer les témoins de cet événement. Nous lui passons la parole.
Je suis actuellement avec Mademoiselle Paumet, témoin de l'animal volant au-dessus du bois de Kerwal. Mademoiselle Paumet, pouvez-vous nous décrire ce que vous avez vu hier soir ?
Je faisais mon footing et je cherchais un marchand de frites. Je me suis perdue. J'ai levé la tête pour observer les étoiles et retrouver ma route. Et là, je l'ai aperçu. Il était énorme et effrayant. Une grosse masse sombre avec une immense corne. Il était là, le marchand de frites.
Oui, mais l'animal !
Ah oui, pardon, j'en viens. Donc j'achète mes frites avec ma sauce ketchup.
Oui, mais l'animal !
Eh bien, il m'a volé mes frites. J'ai essayé de le courir après, mais c'était trop tard, il s'était envolé.
Merci pour votre témoignage, Mademoiselle Paumet. Je suis maintenant avec Docteur Maboul. Cher docteur, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé hier ?
Hier soir, j'étais tranquillement en train de faire des expériences illégales dans mon laboratoire, quand j'ai entendu un bruit. J'ai cru que c'était le micro-ondes. Donc j'ai continué à fabriquer du poison. À cuisiner du poisson. Quelques secondes plus tard, la fenêtre s'est brisée. J'ai cru que c'était à cause du vent. Donc je vais voir pour réparer la fenêtre. Et là, je vois la cage de mon chat loup-garou ouverte.
Mais comment avez-vous créé cet animal ?
Ben, j'ai mélangé du poison, avec d'autres poisons, poissons. Et puis mon chat a sauté dedans. Puis j'ai ajouté une libellule trouvée dans le jardin. Puis, j'ai tué un loup-garou et je l'ai plongé dedans. Et pour améliorer une licorne de mon ancienne expérience, je l'ai plongé dans la marmite.
Mais cet animal est toujours en liberté ? Est-il dangereux ?
Il n'est pas dangereux. Sauf si vous adorez les frites au ketchup. C'est son seul régime alimentaire.
Si jamais nous l'apercevons, que devons-nous faire ?
Ben, filmez-le. Comme ça me fera des vues sur Instagram.
Merci Monsieur Foufou pour ce reportage, soyez donc bien vigilants si jamais vous apercevez la bête. Et nous faisons tout de suite une courte pause publicitaire.
Salut, c'est Francky Leboeuf, vous voulez savoir comment avoir votre enfant ? Rentrez simplement les détails de votre enfant sur le site vendezvotreenfant.fr et recevez rapidement son prix de vente. Rendez-vous sur notre site internet vendezvotreenfant.fr et vendez ensuite votre enfant dans une de nos agences de Brest.
Vous venez d'écouter un journal réalisé par les enfants du Galmeur. En présentatrice, aujourd'hui, nous avions...
Mila Lucet.
En Miss Météo, nous avions...
Elisa.
En journaliste sur le terrain, nous avions...
Alexandre.
Et en journaliste sur le plateau, nous avions...
Gabin.
En invité du jour, nous avions...
Romain.
Alors ça y est, le stage est terminé. Je voulais vous demander à chacun, qu'est-ce que vous en aviez pensé ? Qu'est-ce que vous avez aimé ? Qu'est-ce que vous avez moins aimé ? Gabin, est-ce que tu veux commencer ? Tout ça.
Oui, il y a beaucoup de choses que j'ai dit là.
Est-ce que ça t'a plu ?
Oui.
Qu'est-ce qui t'a plu le plus ?
T'as rigolé.
Ok, bah c'est pas mal, c'est une bonne raison. Elisa.
Alors j'ai beaucoup aimé le chat loup-garou. C'était très drôle de l'inventer.
Mila.
Alors moi j'ai adoré j'aime bien mon rôle d'être la présentatrice, ça m'a vraiment plu parce que je parlais assez beaucoup et c'est ce que je c'est ce que je voulais et aussi le chat loup-garou c'était vraiment très drôle
de faire tout le sketch autour de ouais. L'animal quoi. Ok. Alexandre, qu'as-tu à dire?
C'était rigolo.
Le plus drôle c'était que c'était rigolo.
Tout le stage était rigolo.
Ouais, okay. Le plus drôle, c'est que c'était très drôle.
Merci à eux et bonne écoute. Non, pas bonne écoute. Et merci d'avoir écouté. Tu veux le dire une dernière fois ?
Radio Info, c'est la radio...
Non !
Juste, 3, 2, 1...
Radio Mytho, la radio qui a toujours faux.
Merci à tous d'avoir participé à cette émission. On se retrouve, si vous le voulez bien, le mois prochain. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous.
Bonne soirée.
À bientôt.